sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi, donc ce matin, vous faites le programme de l'émission, c'est la Libre Antenne. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire pour participer. Toute l'équipe attend vos messages. Vous avez encore une demi-heure pour nous appeler. D'ici là, ce sont vos questions à la rédaction. Bonjour Adama.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Bonjour à Anne Campner.
Vous vouliez nous parler du Maroc ?
Ok, le lundi dernier, le leader de l'opposition au Maroc, El Omari, secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, a démissionné. Selon la presse locale, cette démission serait liée à la crise d'Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de contestation qui secoue la région du Rif. Et j'aimerais savoir quelles sont les vraies raisons qui ont motivé la démission du leader de l'opposition, El Omari, et est-ce que cette démission aura un impact sur le parti? Et est-ce que le parti pourra pleinement jouer son rôle sur l'échiquier politique marocain?
Alors pour vous répondre, Adama, nous sommes en ligne avec Aboubakar Jamaï. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'Institut américain universitaire à Aix, dans le sud de la France. Alors, Ilyes El Omari a nié, lui, tout lien avec la contestation qui secoue la ville, la région d'Al-Hoceima depuis plusieurs mois maintenant. Mais c'est vrai qu'on a quand même du mal à le croire. Il est le président de cette région du nord du Maroc.
Oui, alors évidemment, évidemment qu'il y a un lien avec ce qui se passe dans le nord et dans le Rif, et que sa démission probablement ne serait pas arrivée s'il n'y avait pas la série de manifestations au nord du Maroc et dans le Rif, pour plusieurs raisons. Mais je pense que ce n'est pas la seule raison. Je pense qu'il faut voir, il faut revenir à la nature même du PAM, du Parti de l'Authenticité et de la Modernité, qui est considéré comme le premier parti d'opposition, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Le PAM a été fondé par la monarchie. Il a été fondé par Fouad Al-Lima, qui est aujourd'hui le numéro 2 du régime, qui est conseiller du roi, qui est le proche conseiller du roi, et qui est en fait le gestionnaire au quotidien de la monarchie marocaine. Et ce parti est très lié à la monarchie marocaine. Et la question qui se pose aujourd'hui, la question que se posent les politologues et les analystes au Maroc, c'est est-ce que cette décision est une décision indépendante, prise en toute indépendance par Ilyes El Omari, ou est-ce qu'on lui a montré la porte, on lui a dit c'est le moment de partir.
Oui, d'autant plus que le roi Mohamed VI a tenu un discours très dur contre les partis à l'occasion de la fête du trône il y a quelques jours, une dizaine de jours à peu près.
Absolument.
Ce discours, c'est une tradition, normalement c'est plutôt une sorte de bilan de l'année écoulée, et là le roi a été très très dur avec les partis politiques.
Il a été très dur, mais le discours est inquiétant. J'y reviens dans une seconde. Le discours a été inquiétant parce que c'est un discours qui était quelque peu décousu, et c'est l'une des rares fois où Mohamed VI en fait n'a amené aucune solution. C'est-à-dire qu'il a d'une façon assez dur, critiquer critiquer l'administration, critiquer les partis politiques. Il a évidemment laissé de côté et dit certaines, et était laudateur vis-à-vis d'une certaine partie de l'administration, mais il a été critique vis-à-vis de la plus grande partie de l'administration. Et Ilyes El Omari, dans sa conférence de presse où il a annoncé son départ, il a bien lié son départ au discours du roi. Ça, par contre, il a fait le lien avec le discours du roi en disant qu'il en tirait les conclusions politiques. Maintenant, quel est le lien entre le PAM et la monarchie? Je pense que c'est la question la plus importante, qui, à mon avis, est la plus intéressante aujourd'hui. C'est que, comme je l'ai déjà dit, le PAM est un parti qui est soutenu par la monarchie, qui a été fondé par des proches de la monarchie, et c'est un parti qui, de façon tout à fait ouverte, a été mis sur pied pour contrer le PJD, le Parti Justice et Développement.
Le parti des islamistes.
Absolument, oui. Enfin, c'est des conservateurs à matrice islamique, parce que cette histoire d'islamisme pose problème, parce que la monarchie elle-même est par définition islamiste, puisque basée sur l'ascendance prophétique et le contrôle de la religion. Donc il faut faire attention avec ces catégories, parce qu'elles sont trompeuses au Maroc en particulier. Je disais donc que le PAM a été fondé par la monarchie, et le PAM, certes, a échoué dans le Rif. Il faut savoir que le PAM contrôle 30 des 36 municipalités de la province de Chossignan. Et que donc, s'il y a manifestation, c'est que nécessairement, les élus du PAM ont échoué quelque part. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a une raison plus profonde, qui a à voir avec les résultats des élections municipales de 2015 et les résultats législatifs de 2016, où le PAM a échoué à contenir justement le PJD, qui est sa première mission, puisque le PJD est arrivé premier, a gagné les élections, et surtout, surtout ce qu'on oublie de dire, c'est que le PJD domine les grandes villes au Maroc. Là où le PAM est fort, c'est dans le monde rural et les petites villes. Et en fait, là d'où les rébellions sortent, d'où la subversion vis-à-vis des régimes autoritaires sort, ce sont les villes et les grandes villes. Or, dans les grandes villes, les partis proches de la monarchie sont très faibles et le PAM lui-même est faible. Et pour moi, c'est cela le vrai grand échec du PAM et c'est cela probablement ce qu'est en train de payer Ilyes Oumari.
Et alors ça rejoint oui. L'autre question d'Adama qui s'interrogeait sur le rôle politique du PAM, de ce parti d'opposition à l'avenir. S'il a été créé pour faire contrepoids au PJD et que ça n'a pas marché et qu'il perd un peu de sa présence et qu'il est en recul, est-ce qu'il a toujours un rôle majeur à jouer sur la scène politique marocaine?
Écoutez, ça va dépendre. La monarchie marocaine, depuis le temps de Hassan II, nous a habitués à produire des partis politiques, entre guillemets, factices. Pas nécessairement factices, parce qu'ils ont des bases. Hein. Ce sont des partis, même s'ils sont proches de la monarchie, fabriqués par la monarchie, ils ont des bases. Mais la monarchie a toujours produit ces partis-là, et à chaque fois que le parti qui devait remplir la mission de contenir l'opposition, puisque tout cela n'est pas nouveau, d'autres partis avaient été créés dans les années 70 pour contenir la gauche, démocratique. Lorsque ces partis l'affaiblissent, la monarchie fait émerger de nouveaux partis. Donc la question qui se pose aujourd'hui vis-à-vis du PAM et qui je considère est secondaire en règle générale, c'est est-ce que le PAM va se renouveler de façon à mieux remplir sa mission ou est-ce que la monarchie va décider de choisir un autre cheval pour contenir son opposition politique?
Merci beaucoup Aboubakar Jamaï d'avoir été avec nous pour répondre aux questions d'Adama. Très bonne journée à tous les deux. Un numéro si vous aussi vous souhaitez décrypter l'actualité avec nos journalistes et les spécialistes, plus 33, c'est le code de la France, 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire appel@actu.rfi.fr. Bonjour Blaise.
Ah, bonjour madame.
Vous nous appelez de Boisflay en Côte d'Ivoire, on vous écoute.
Oui, bonjour à la Radio Mondiale. Bien, le Parlement sud-africain a rejeté la motion de défiance contre M. Jacob Zuma. Alors, très sincèrement, comment expliquer que M. Jacob Zuma échappe-t-il à chaque fois aux motions de défiance? L'opposition a-t-elle d'autres possibilités pour destituer M. Jacob Zuma? L'ANC, affaibli par la motion de défiance et surtout par la division en son sein, peut-il se relancer?
Alors, notre correspondante en Afrique du Sud va vous répondre. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
177 députés ont voté pour la destitution du président, mais la motion a été rejetée par 198 élus, donc il reste en poste. Depuis qu'il est président, Jacob Zuma a fait face à 8 motions de censure, dont 4 dans les 2 dernières années. Et pourtant, eh bien, il est toujours là, Lisa Fabian.
Oui, ça s'explique tout simplement parce que l'ANC est très largement majoritaire au sein du Parlement sud-africain. Le parti compte 249 élus sur les 400 qui siègent à l'Assemblée nationale. Il est donc très difficile pour l'opposition de réunir une majorité absolue qui lui permettrait de remporter un vote de défiance et de faire tomber Jacob Zuma. Avec ses 151 sièges, l'opposition n'a qu'une seule solution pour y arriver, rallier le vote d'au moins 50 députés dissidents de l'ANC, ce qui lui permettrait de renverser Jacob Zuma. Mardi dernier, une vingtaine de parlementaires de la majorité, au moins, ont fait le choix de soutenir la motion de défiance de l'opposition et une dizaine s'est abstenue. Mais ce n'était pas assez pour que le scrutin bascule, même si c'était une vraie première.
Et alors, est-ce que l'opposition dispose d'autres possibilités pour destituer Jacob Zuma?
Oui, la Constitution sud-africaine envisage plusieurs procédures dans ce sens. La motion de défiance qui a été présentée mardi s'appuyait sur l'article 102 de la Constitution. Si le président est reconnu coupable de mauvaise conduite, de violation de la loi ou d'incapacité à remplir ses fonctions, il est également possible de lancer une procédure de destitution en vertu de l'article 89 de la Constitution. L'opposition a déjà utilisé ce recours qui a fait l'objet d'un vote au au Parlement en avril 2016. Celui-ci a échoué, comme tous les autres. Mais il y a encore d'autres options. Pas plus tard qu'hier, l'Alliance démocratique a présenté un nouveau recours en s'appuyant cette fois sur l'article 50 de la Constitution. Ce recours vise à dissoudre l'Assemblée nationale afin de précipiter de nouvelles élections. D'après la Constitution, il est possible d'utiliser cette procédure 3 ans après le dernier scrutin national. Mais là encore, il faudrait qu'une majorité de députés vote pour, ce qui n'est pas près d'arriver, surtout que les autres partis d'opposition sont opposés à ce nouveau recours déposé donc par l'Alliance démocratique. Si l'opposition veut vraiment que le Parlement soit dissous, il y a d'ailleurs une autre solution qui serait bien plus radicale. L'Alliance démocratique pourrait demander à tous ses élus de démissionner. Dans ce cas, le Parlement serait automatiquement dissous. Mais bon, on n'en est évidemment pas encore là et il y a peu de chances que ça arrive.
Lisa Fabian, notre auditeur Blaise se demandait aussi si l'ANC pourrait se relever de cette nouvelle motion de censure. Même si Jacob Zuma échappe à la destitution, le score est assez serré finalement. Et la période est cruciale pour l'ANC puisque le parti doit élire son nouveau président à la fin de l'année en principe. Alors, est-ce que l'ANC va pouvoir continuer et se relever ?
Oui, c'est sûr, le vote de mardi n'est clairement pas une bonne nouvelle pour l'ANC. Jacob Zuma a survécu, mais le parti est affaibli et divisé. Il reste encore 4 mois avant la conférence électorale du mois de décembre, lors de laquelle l'ANC va donc élire son nouveau président et son futur candidat aux élections nationales. Ce rendez-vous s'annonce très périlleux, avec le risque de voir le parti se diviser sur le nom de son futur dirigeant. Et puis, on peut aussi s'imaginer qu'il va y avoir des manœuvres d'ici là pour essayer de négocier un départ de Jacob Zuma à la fin de l'année. En plus, la conférence électorale du mois de décembre ne va pas régler tous les problèmes du parti, loin de là, puisque juste après, il faudra se mettre en ordre de bataille en vue des élections de 2019. L'ANC peut encore espérer que ses nouveaux dirigeants sans histoire pourront partir en campagne à travers le pays pour mobiliser les électeurs. Mais Jacob Zuma peut très bien rester en place jusqu'à la fin de son mandat en 2019, avec le risque de voir éclater de nouveaux scandales, ce qui ne faciliterait sûrement pas les affaires de l'ANC.
Lisa Fabian, merci beaucoup d'avoir été en direct de Johannesburg et merci Blaise de nous avoir appelés. La prochaine question nous vient de Paris. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Il va renvoyer les demandeurs en vertu des accords.
Alors Mohamed, on vous entend très mal. Est-ce que ça vous ennuie de reprendre ? Parce que je pense que les auditeurs n'ont pas pu comprendre ce que vous disiez.
Ah d'accord, c'est bon, vous m'entendez très bien maintenant,
oui.
C'est bon ?
Maintenant, on vous entend bien.
Ok, d'accord. Je disais que l'Allemagne va renvoyer les demandeurs d'asile en Grèce en vertu des accords de Dublin, les obligeant à faire leurs demandes dans les pays par lesquels ils sont rentrés dans l'Union européenne. Or, en 2011, les renvois avaient été stoppés par la Cour de justice de l'Europe qui jugeait le système d'asile de la Grèce défaillant. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Est-ce que la Grèce a-t-elle les moyens de faire appel à cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne ?
Alors nous sommes en ligne avec Sarah Abbas, directrice du Bureau France de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Bonjour.
Oui, bonjour Anne, bonjour Mohamed.
Merci d'être avec nous. Alors, les accords de Dublin dont parlait Mohamed précisent effectivement que le pays qui est responsable du dossier de demande d'asile, eh bien, c'est le pays qui a laissé entrer, volontairement ou non, la personne concernée qui demande l'asile en Europe. Et en 2011, la Cour de justice européenne avait suspendu ce règlement en estimant qu'Athènes n'avait pas les moyens d'accueillir les migrants dignement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est de nouveau envisageable de renvoyer des migrants vers la Grèce ?
Oui, déjà un peu d'historique. Vous savez que depuis 2011 et surtout depuis 2015, la Grèce a connu un nombre très important d'arrivées de migrants dans le pays. Seulement en 2015, environ 853 000 personnes sont arrivées par la mer. Et bien évidemment, cela a mis une pression énorme sur le système d'asile et de migration, étant donné que la Grèce est le principal pays de première entrée sur la route de la Méditerranée orientale. Et pour aider la Grèce à faire face à cette pression migratoire, il y a le programme temporaire de relocalisation d'urgence qui a été institué en septembre 2015, pour lequel les États membres de l'Union européenne se sont engagés à relocaliser, depuis l'Italie mais aussi la Grèce, des personnes ayant besoin d'une protection internationale. Et les décisions de relocalisation portent sur l'engagement de relocaliser environ 100 000 personnes, dont 63 000 depuis la Grèce. Et aujourd'hui, environ 24 000 ont été relocalisées depuis la Grèce. Par rapport au système d'asile d'aujourd'hui, c'est vrai que la Grèce a augmenté beaucoup ses capacités globales d'accueil des migrants.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Grèce est capable d'accueillir des migrants de nouveau ?
Oui, en fait, elle a augmenté ses capacités. Elle a également amélioré sa capacité de traitement des dossiers. Le système s'est donc amélioré. Et une bonne partie du retard accumulé dans le traitement des dossiers de demande d'asile a été rattrapée. Et aussi, l'entrée en vigueur de la déclaration de l'Union européenne-Turquie a permis une baisse significative du nombre d'arrivées quotidiennes par rapport à 2015.
Et donc la situation est moins difficile pour la Grèce, si je comprends bien. La Grèce qui a quand même exprimé son désaccord avec cette décision de l'Allemagne de renvoyer des migrants. Est-ce qu'Athènes peut faire appel et saisir, comme le suggérait Mohamed, la Cour de justice européenne ?
Il semble aujourd'hui que la Grèce ne conteste pas ces transferts de demandeurs d'asile sous les accords Dublin. Au contraire, en fait, le gouvernement grec a toujours essayé de suivre les politiques migratoires de l'Union européenne. Mais je pense qu'il faut quand même bien comprendre que la Grèce n'a pas aujourd'hui peut-être la capacité d'absorber un grand nombre de retours. Comme j'ai déjà mentionné, la situation s'est certainement améliorée, mais un grand afflux de migrants pourrait quand même mettre le système en danger.
Merci beaucoup Sarah Abbas et merci Mohamed pour votre appel. Dernière question, on va parler de la Russie. Bonjour Frédéric.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Au procès de l'ancien ministre de l'économie russe s'est ouvert ce mardi 8 pour corruption. J'aimerais savoir quels sont les griefs qui lui sont reprochés.
Alors Muriel Pomponne est avec nous pour décrypter un peu ce procès, correspondante de RFI à Moscou. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors le ministre avait été arrêté en novembre dernier. C'est la première fois qu'un ministre en exercice est arrêté et jugé depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Que lui reproche-t-on exactement ?
Alors, on lui reproche d'avoir tenté de soutirer 2 millions de dollars à la compagnie pétrolière Rosneft. L'intitulé exact de l'accusation est « extorsion de pot de vin ». Il aurait exigé cette somme pour donner son accord au rachat par Rosneft, donc Rosneft qui est une compagnie semi-publique, semi-privée, d'une compagnie nationalisée qui s'appelle Bashneft. Une transaction énorme à 5,2 milliards de dollars, c'est-à-dire la plus importante cession d'actifs réalisée en 2016 par le gouvernement russe. Et les enquêteurs affirment qu'il ne manque pas d'éléments à charge, notamment des enregistrements visuels et sonores, des témoignages et même des empreintes. Et il était en fait de notoriété publique que le ministre n'était pas favorable à cette transaction. Donc pour les enquêteurs, il aurait monnayé son accord. Mais la somme exigée, 2 millions de dollars, paraît en fait dérisoire par rapport au montant de la transaction, je répète, 5,2 milliards de dollars. Et la façon dont il a été arrêté, c'est-à-dire la nuit dans les locaux de Rosneft, paraît également rocambolesque. Donc pour certains observateurs, ils auraient tendance à croire que le ministre a dit la vérité lorsqu'il dit que cette affaire était une provocation. La première audience sur le fond va avoir lieu le 16 août, donc dans quelques jours, et là, le ministre pourra donner sa version.
Alors, comment on peut expliquer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur cette arrestation, ce procès, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre politique ou est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et prolongées de 6 mois contre la Russie ?
Il n'y a aucun lien entre les sanctions et l'éviction de ce ministre. À la suite des sanctions, le gouvernement russe a décrété un embargo, on s'en souvient, sur les produits agroalimentaires européens notamment. Et donc, le gouvernement a lancé une politique de substitution aux importations. Et ça, bien, Ouloukaïev n'y était pas opposé. En revanche, l'économie russe a effectivement besoin d'être restructurée. Et cela depuis longtemps, depuis bien avant les sanctions, car elle ne repose que sur les exportations d'hydrocarbures et de matières premières. Alors, il y a effectivement au sein du pouvoir ceux qui sont favorables à plus de libéralisation de l'économie et ceux qui préfèrent une économie plus dirigée. Ouloukaïev fait plutôt partie des premiers. Généralement, de toute façon, en Russie, le pouvoir est divisé entre ceux qui sont favorables à une libéralisation du régime et ceux qui sont plus proches de ce que l'on appelle les structures de force, autrement dit un État fort. Or, Igor Sechin, qui dirige Rosneft, est plutôt réputé faire partie du clan des proches des structures structure de force et être également proche de Poutine. Donc, il y a peut-être une manœuvre politique derrière cette éviction, en fait une façon pour les structures de force de montrer justement leur force.
Merci beaucoup Muriel Pomponne d'avoir répondu aux questions de Frédéric. Vous restez avec nous juste après le journal. C'est la Libre Antenne, à tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.